Merci pour toutes ces informations de ces dernières heures. On se retrouve pour notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes en compagnie de John Bowen. Il est anthropologue, professeur à l'université Washington à Saint-Louis aux États-Unis et vient d'écrire un livre que je vous recommande qui s'intitule « L'islam, un ennemi idéal ». Le titre est volontairement provocateur, livre publié chez Albin Michel. Direction l'Afrique dans quelques minutes, mais d'abord l'actualité française, mais pas de politique aujourd'hui, à la veille du scrutin municipal, deuxième tour demain. On y reviendra bien sûr la semaine prochaine, nous reparlerons de ce résultat des élections municipales et de leurs conséquences politiques. Mais tout de suite, ceci, la création d'une association des amis de Ghislaine Dupont. Elle a pour objectif de comprendre ce qui s'est passé le 2 novembre dernier à Kidal, le jour de la mort de Ghislaine et de Claude Verlon. Écoutez Laurence Lacour, la porte-parole de l'association.
Bien évidemment, on ne veut pas que la mort de Ghislaine Dupont et puis celle de Claude Verlon restent dans l'ombre. Et évidemment, aujourd'hui, au bout de 5 mois, on se pose toujours les mêmes questions. Et maintenant, on les pose publiquement. Qu'en est-il de l'enquête ? Très vite, on nous avait parlé en novembre de suspects. Depuis, il ne s'est plus rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé ce 2 novembre ? Qu'est-ce que c'est que ce silence qui alimente nos doutes, évidemment, parce que nous ne savons rien des mobiles, des causes de ces deux assassinats ? Est-ce qu'il y a aussi un rapport avec l'implication française militaire au Mali ? On ne le sait pas. On nous a dit qu'un juge d'instruction serait sans doute nommé à la fin du mois de janvier. Or, nous sommes bientôt à la fin du mois de mars et nous n'avons rien vu venir. Troublés par ce silence, nous voudrions aussi que le président de la République, qui s'était engagé auprès de nous et auprès de la mère de Ghislaine au mois de novembre à ce que les choses soient éclairées, eh bien, donne suite, parce qu'évidemment, on se pose des questions. Est-ce que les informations relèvent plutôt du renseignement ? Est-ce qu'elles relèvent plutôt de la diplomatie, de la géopolitique ? Tout ça, on ne le sait pas. Maintenant, on veut le savoir et on veut le faire savoir.
Et nous allons suivre cela avec une extrême attention, vous le devinez. Suite d'une semaine d'actualité en France, Marc Bowen, l'enseignement privé musulman marque une nouvelle étape dans son développement avec la création, il y a juste une semaine, d'une fédération nationale pour défendre ses intérêts auprès des pouvoirs publics. En France, il y a environ une trentaine d'écoles musulmanes. Deux seulement ont un agrément de l'État. Aujourd'hui, les chefs d'établissements privés musulmans veulent faire entrer de plein pied leurs écoles, dans le système éducatif français. Donc, Jeanne Richard.
Au bout de 5 ans d'existence, les écoles privées peuvent prétendre à un contrat d'association avec l'État, un atout précieux, comme l'explique Maclouf Mamesh, directeur adjoint du lycée Averroès à Lille, le premier lycée privé musulman en France à avoir obtenu ce contrat.
On aspire à cette signature pour pouvoir bénéficier des subventions de l'État et aussi la formation de notre personnel, surtout les professeurs.
Maclouf Mamesh est aussi le tout nouveau président de la Fédération nationale de l'enseignement privé musulman en France, dont le but est d'aider les écoles dans leur démarche avec l'État. Il faut dire que le besoin de coordination se fait de plus en plus ressentir, car leur nombre ne cesse d'augmenter.
Chaque année, on assiste à la création de minimum 2-3 nouvelles écoles privées musulmanes. Donc, il y a aujourd'hui une demande, il faut juste canaliser un peu ce mouvement.
Depuis la loi sur l'interdiction du port du voile, notamment, les familles musulmanes recherchent des établissements scolaires plus proches de leur culture.
Il y a l'enseignement de la langue arabe, il y a l'enseignement de la religion musulmane dans nos établissements. C'est l'enseignement du programme scolaire, mais avec notre petite touche.
L'enseignement musulman reste toutefois peu développé en France, une trentaine d'écoles contre 9000 établissements catholiques et une centaine d'écoles juives.
Alors John Bowen, j'attends avec impatience votre commentaire sur ce sujet, parce que c'est un sujet que vous connaissez bien, vous l'avez traité dans un livre précédent, me disiez-vous, pendant que vous écoutiez ce sujet. Alors, cela va-t-il marcher ou pas ? Il existe, Jeanne Richard l'a dit, des écoles catholiques sous contrat depuis très longtemps, elles sont nombreuses, des écoles juives, mais les écoles musulmanes sont embryonnaires, en quelque sorte une trentaine à peine.
Oui, ça doit marcher, au nom de la laïcité, qui prend une égalité de traitement pour toute confession. Alors là, exactement parce qu'il y a déjà l'exemple des écoles catholiques, des écoles juives, on doit promouvoir même l'existence des écoles musulmanes. Alors ceci dit, c'est assez optimiste la prédiction et l'espoir de ce monsieur, parce que c'était avant, en septembre, c'était juste avant déjà, que les premiers efforts de monter une école musulmane sous contrat a été commencé à Bervilliers par Dal Miskine, qui n'a toujours pas son contrat.
Alors, oui, 13 ans après.
Parce que c'est pas le cas que tout le monde, ni dans les ministères, ni dans l'académie, ni dans les mairies, sont d'accord sur ce que je viens de dire, qu'ils ont le même droit que les juifs et les catholiques. Alors, malgré des rapports des inspecteurs largement positifs, il y a toujours eu des problèmes, des entraves à réaliser son espoir. Et à Lyon, c'était le troisième cas où il y avait un contretemps entre l'académie et ceux qui voulaient monter une école. Donc ça a été toujours dès le début une question politique. Alors le grand défi politique pour la France, c'est de surmonter cette réticence à donner aux musulmans ce qu'on a déjà donné aux catholiques et aux juifs.
Oui, parce que là, c'est vraiment une réticence politique, psychologique, dirais-je, parce que le lycée Averroès à Lille a beaucoup de prestige, il est reconnu.
Oui.
Il y a juste pas un problème de contenu.
Non, oui, ceci dit, il y a un avertissement qu'on pourrait lancer à la direction de ce monsieur. Il finissait son rapportage en disant « C'est comme les autres écoles avec notre petite touche. » Alors ça, il faut limiter quand même l'enseignement d'une religion à une heure par semaine et ne voit pas trop de petites touches qui pourraient infléchir l'enseignement dans d'autres directions. Donc, inspection du ministère, c'est bien évidemment, c'est important.
Mais vous, avec votre regard de chercheur, vous devez trouver ça étonnant quand même qu'il n'existe en France qu'une trentaine d'écoles musulmanes à ce jour.
Oui, le chiffre, une trentaine, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Des lycées qui sont avec des collèges qui fonctionnent bien, je ne sais pas s'il y a plus de 3 ou 4.
Oui. Alors l'actualité aussi, vous voyez, là on est dans le risque de confusion, mais on y prend garde. Vous le savez, ici, un attentat semble avoir été déjoué sur la Côte d'Azur cette semaine par les services secrets de contre-espionnage français, la DCRI, le service de renseignement, qui ont arrêté un homme d'origine musulmane de retour du djihad en Syrie, et avec à son domicile quelques 900 grammes d'explosifs puissants, et les services français ont identifié à ce jour quelques 700 personnes qui seraient parties et qui sont susceptibles de revenir. Et là, ça alimente aussi d'évidence climat hostile à l'islam.
Évidemment,
mais il y a confusion.
Oui, de l'autre part, il ne faut pas minimaliser ce problème. C'est un énorme défi, un problème, pas uniquement pour la France, mais peut-être c'est en France où ce phénomène s'accroît le plus vite.
Des images ont circulé cette semaine sur les télévisions françaises montrant de jeunes djihadistes en Syrie avoir un comportement absolument barbare.
Oui, voilà. Et là, il faut qu'il y ait des analyses. Moi, j'ai vu plusieurs reportages sur le problème, mais des analyses nous manquent pour le moment. Pourquoi ces gens étaient tentés à joindre ces mouvements djihadistes? Souvent, il s'agit des convertis, des gens qui étaient pêchés quelque part. Souvent, on sait très bien des analyses des experts en contre-terrorisme aux États-Unis, en Angleterre, qui, là, cette connaissance est un peu plus développée qu'en France. Les mobiles sont souvent, il s'agit des gens égarés, qui trouvent des copains, un copinage tout de suite, avec des gens qui sont, par hasard, des djihadistes, des gens qui recrutent d'autres djihadistes. C'est là où il faut déjouer ces réseaux de recrutement, et en même temps, il faut trouver d'autres moyens pour que ces gens égarés trouvent un emploi, une place à la fac ou une autre sorte d'avenir que le djihad.
Et c'est là que l'islam peut devenir un ennemi idéal aux yeux de certains. On ne peut pas parler de politique aujourd'hui, mais vous voyez très bien de quoi je parle.
Exactement. Et en même temps, l'islam peut être le meilleur ami de ceux qui luttent contre le terrorisme. Je vous donne l'exemple de Mark Sedgman, un grand expert en terrorisme qui travaillait pour le CIA aux États-Unis, qui disait dans un de ses livres si on avait davantage d'écoles qui enseignaient le vrai islam en Europe et aux États-Unis, ça pourrait détourner par mieux éduquer des musulmans sur le vrai islam. Et les détourner de cette voie qui mène jusqu'au djihad. Mais en même temps, c'est vrai ce que vous dites, ça alimente cette peur de l'islam. Le vrai défi, c'est de ne pas penser de l'islam ou des musulmans comme un bloc. Il y a des djihadistes dans n'importe quelle religion, des gens qui tuent au nom du bouddhisme, de l'hindouisme. On ne fait pas le procès du bouddhisme en général à cause de ces gens-là. On ne doit pas le faire non plus sur l'islam.
Alors, il y a plusieurs idées que vous développez dans ce livre. On a déjà parlé du multiculturalisme, notamment. Il y a la deuxième idée sur laquelle vous revenez pour la condamner, c'est cette idée que les musulmans demeurent en quelque sorte à l'écart du monde.
Oui, il y a deux problèmes.
Du monde occidental.
Oui, voilà. Il y a deux problèmes dans cette logique de pensée. D'abord, est-ce que il y a cette tendance à penser que des musulmans comme un bloc, alors qui pensent tous de la même façon, qui se trouvent tous dans la même situation. Évidemment, si on parlait des catholiques comme un bloc, que pensent-ils les catholiques sur telle question? C'est ridicule. Mais c'est aussi ridicule pour les musulmans. Alors, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ce sont quelques idées fausses sur, par exemple, la démographie, l'idée que les musulmans se reproduisent beaucoup plus vite que les autres. Tandis que c'est bien démontré par la fondation Pew, par exemple, qui étudie la question, d'être une fausse idée. Et l'idée que les musulmans s'isolent...
Refuseraient, en quelque sorte, la culture occidentale.
Oui,
si ce terme veut dire quelque chose, culture occidentale, je ne pourrais pas mettre du pluriel.
Oui, pour prendre un exemple, la question de la politique. Est-ce que les musulmans pensent qu'il faut vraiment s'investir dans la politique? Évidemment, en France, en Grande-Bretagne, oui. On voit dans l'ancienne zone, la petite couronne, autour de Paris, un investissement par des groupes musulmans assez forts. Alors, c'est le problème, ça a devenu perdant-perdant. Soit il s'abstient de la politique, et donc il s'agit de la communautarisme, soit il s'investit massivement, il s'agit d'une conquête de pouvoir. Alors, il ne peut pas gagner. Alors, mais ce qu'ils font actuellement, c'est vraiment de s'investir. Par exemple, UIM 93, d'autres mouvements autour de la politique en France cette semaine, ce sont massivement des musulmans qui font exactement le même que les autres groupes, c'est-à-dire de faire de la politique un moyen d'obtenir certaines facilités auxquelles ils ont droit, comme des mosquées, des salles de prière, etc.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir pour l'Afrique, John Bowen. Nous allons parler de la situation en Centrafrique pour commencer. Le week-end dernier, Bangui a connu une nouvelle flambée de violence. Reportage au début de la semaine, lundi, de nos envoyés spéciaux Olivier Roger et Richard Ifonou.
Dans la moiteur d'une capitale écrasée à la fois sous la chaleur et la violence, les habitants de Bangui ont connu hier leur quatrième journée de tensions consécutives. Depuis samedi, les milices anti-Balaka font le coup de feu dans plusieurs quartiers de la capitale. Samedi, c'était au PK5, lundi et mardi dans les quartiers combattants Miskine et Gobongo. Les anti-Balaka ont dressé des barricades que les forces internationales ont démantelées. Hier encore, des échanges de tirs ont opposé les militaires de la MISCA aux anti-Balaka, tandis qu'un hélicoptère de la force Sangaris survolait les quartiers chauds. Responsable de la MISCA accuse les anti-Balaka de s'en prendre désormais ouvertement aux soldats africains et notamment au contingent burundais. Les Burundais sont devenus impopulaires aux yeux des plus radicaux qui font courir en ville les rumeurs les plus folles à leur sujet. Pour les responsables de la MISCA, si les Burundais sont impopulaires, c'est qu'ils font leur travail, notamment aux abords de l'enclave musulmane du PK5, qu'ils protègent des miliciens et des pillards. Globalement, la MISCA relève que les anti-Balaka hésitent de moins en moins à s'en prendre aux contingents étrangers. Pour preuve, dans la ville de Boali, lundi, où un soldat congolais a été tué par les miliciens, portant à 21 le nombre de morts au sein de la force africaine.
Et hier, en vous en parlant dans nos journaux, il y a eu de nouvelles victimes, après notamment des attaques à la grenade à Bangui. C'est à suivre tout cela, évidemment. Dans nos journaux, un rappel, John Bowen, il y a un an, la coalition rebelle Séléka a entré dans Bangui, provoquant donc la fuite de François Bozizé, Laurent Corot.
Ce 24 mars 2013, après la fuite de François Bozizé, Michel Djotodia émerge comme le nouvel homme fort. Il cherche d'entrée de jeu à se poser en rassembleur.
Nous sommes venus, c'est pour tous les Centrafricains et tous les Centrafricains. Nous avons pris les armes pour eux.
Dès le 24, la capitale Bangui est cependant livrée au pillage. Le pays est rapidement mis en coupe réglée par des seigneurs de guerre. Les exactions de la Séléka se multiplient, la colère gronde.
Si les Séléka continuent à faire leurs bêtises, nous aussi on va réagir. On va pas tolérer encore. On est des hommes.
C'est l'intérieur du pays qui oppose les premières réponses organisées de vieilles milices chargées de protéger la population. Les anti-Balaka sont réactivées. Des anciens des forces armées se joignent à elles. Et ces milices s'attaquent dès le début aux populations musulmanes, comme à Bouka.
Dans certaines familles musulmanes, où ils étaient passés, ils en ont exterminé. le papa, la maman et puis les enfants aussi. Parce que eux, c'était un esprit de vengeance. Ils ont fait ce jumelage-là entre les musulmans et les éléments de la Séléka.
Le 5 décembre, les anti-Balaka parviennent même à entrer dans Bangui. Jotodia voit dans cette attaque coordonnée la main de l'ancien président François Bozizé, mais il ne parvient pas à faire oublier sa responsabilité dans la dérive du pays. La France et les pays de la région obtiennent sa démission, annoncée le 10 janvier lors d'un sommet de la CEAC à N'Djamena. Son départ provoque le retrait de la Séléka à l'Est et une nouvelle accélération des violences anti-Balaka contre les musulmans.
Et notez que selon la MISCA, les milices anti-Balaka précisément sont désormais considérées comme des ennemis. La situation pour le moins tendue en Centrafrique et à Bangui notamment est à suivre, je le répète, dans nos différents journaux. À noter aussi dans l'actualité africaine l'apparition du virus Ebola en Guinée, dans la région de la Guinée forestière, et à Conakry également. Il a touché ce virus à ce jour une centaine de personnes. Et à noter aussi l'intention du président burundais Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat.
7 jours en Afrique.
En compagnie de John Bowen, qui écoute toutes ces nouvelles africaines avec attention. Et nous allons en Côte d'Ivoire maintenant pour parler de la position du FPI, le Front Populaire Ivoirien, qui a déclaré dimanche avoir pris acte, je cite, de la rupture du dialogue politique par le gouvernement, fin de citation, en cause notamment le transfèrement de Charles Blégoudet vers la Cour pénale internationale, correspondance mardi de Stanislas Dachimille.
Une entrave grave à la réconciliation nationale, c'est ainsi que le FPI qualifie le transfèrement de l'ex-leader de la galaxie patriotique Charles Blégoudet à la CPI, mais dans son communiqué, le parti fondé par Laurent Gbagbo énumère une série d'autres arguments qui ont amené sa direction à considérer que le gouvernement rompt le dialogue politique. Un dialogue bloqué, selon le FPI, qui rappelle son constat de l'échec du processus de réconciliation nationale et qui s'en prend, je cite, à l'immobilisme de la CDVR, la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation. Le parti à la Rose dénonce aussi le maintien en détention de Simone Gbagbo et d'environ 800 prisonniers civils et militaires, pro-Gbagbo. Le FPI redit son opposition au recensement général de la population. 30 000 agents recenseurs vont sillonner la Côte d'Ivoire à partir de ce lundi pour une durée de 3 semaines. Et la direction du FPI réitère au passage son appel au boycott du recensement et des auditions entreprises par la CDVR pour écouter les victimes de la crise post-électorale et des crises antérieures. Après avoir fait unilatéralement le constat de la rupture du dialogue politique par le gouvernement, la direction du FPI renvoie à samedi prochain le moment de déterminer l'attitude que le parti va prendre en convoquant une réunion extraordinaire de son comité central.
À suivre donc, aujourd'hui, Charles Blégoudet a donc comparu pour la première fois devant la Cour pénale internationale, le jeudi. Cette audience préliminaire était une étape très formelle. C'est le 18 août prochain, en effet, que le procureur de la Cour pénale internationale et les avocats de la défense pourront échanger sur le fond. Charles Blégoudet est accusé, je le rappelle, par la CPI de crimes contre l'humanité pour avoir coordonné, recruté et armé les jeunes patriotes au service de Laurent Gbagbo au lendemain de la présidentielle de novembre 2010.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire pour réagir à l'actualité. Par exemple, un salut à quelques auditeurs africains qui nous ont écrit à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour par exemple à Djibril à Dakar qui a apprécié les propos tranchés de Pierre Conessa, notre invité samedi dernier, sur les hommes politiques français. Bonjour à Bakary à Bamako, à Roger Yenga à Brazzaville, à Israël Moussa au Niger et un salut à Alpha Oumar Diallo en Guinée. J'invite, écrit-il, les autorités sanitaires guinéennes à veiller à ce que cette fièvre Ebola, dont on a parlé il y a un instant, ne se propage pas sur toute l'étendue du territoire.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie de John Bowen. Alors je continue avec les thèmes que vous développez dans ce livre qui remet les idées en place. Ce livre intitulé « L'islam, un ennemi idéal », titre provocateur pour bien faire comprendre que l'islam n'est pas ce que l'on dit souvent, c'est en tout cas pas l'islamisme, nous sommes évidemment bien d'accord. Vous reprenez cet argument qui dit que la charia s'insinue aussi dans les lois et notamment aux États-Unis.
Oui.
Alors selon certains.
Oui. Dans les deux cas, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, c'est faux. C'est mal comprendre les rapports entre la loi islamique et les procédures islamiques d'une part et le droit, les lois juridiques de l'autre part. Aux États-Unis, il y a eu une campagne motivée par des mobiles politiques électorales pour interdire l'utilisation de la charia par les cours américaines, ce qui est farfelu parce qu'il y a jamais eu un cas de l'utilisation de la charia. Ce qu'on mélange, c'est les références faites aux lois étrangères qui ont leur place dans plusieurs différents aux États-Unis, mais c'était fait juste pour gagner des élections. Alors maintenant, ça se calme un tout petit peu, mais c'est encore une fois, on a fait de quelque chose qui n'existait pas, mais qui se nourrissait de cette peur de la charia qui s'approche, à la base de plusieurs campagnes. En Grande-Bretagne, c'est différent parce que là, il y a vraiment un système, un réseau, des conseils de charia, ce ne sont pas des tribunaux au sens juridique, qui ont leur fonction, c'est un peu comme le Beth Din en France d'ailleurs, ou en Grande-Bretagne, pour résoudre des conflits au sein de la communauté musulmane, mais sans aucun effet juridique.
Alors, est-ce que cette lutte va durer longtemps encore? Vous vous posez la question. Qu'en est-il maintenant de l'idée selon laquelle nous serions engagés dans une lutte sans fin? L'ennemi idéal pour l'Occident, c'était le communisme. Il a disparu en 1989 avec la chute du mur et dans les années qui ont suivi. Là, est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'il va y avoir une meilleure compréhension de ce qu'est l'islam? Soyons optimistes.
Oui, alors si on regarde l'histoire des juifs, des groupes immigrés aux États-Unis ou d'autres minorités, si je peux utiliser le mot minorité en France, ça prend toujours du temps. C'est une question de changer d'une génération à une autre et de mieux comprendre le voisin qui est par hasard un juif, un musulman, un catholique, et pour mieux comprendre le fait que tout ce qu'il fait n'est pas le résultat de sa religion.
Donc cette lutte, cet antagonisme de l'Occident et du monde musulman est une construction idéologique finalement.
Ah oui, ça relève dans sa forme la plus explicite et savante, c'était la construction de Samuel Huntington qui a écrit son livre « Le choc des civilisations » qui faisait référence à une vérité, c'est-à-dire il y a vraiment une ligne de démarcation entre le monde chrétien à certaines époques, le monde ottoman et le monde russe, etc. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ça n'a plus d'actualité parce qu'il y a des milliers et des milliers de musulmans dans l'Occident. Une grande partie de ce qu'on dit l'Europe, c'était islamisée depuis des siècles. Je parle de la sud-est de l'Europe. Donc, ça n'a aucun sens même dans une compréhension géostratégique. Et bien sûr, au sein de chaque pays, les choses commencent à s'améliorer, les gens s'intègrent et il y a des vraies possibilités d'avoir un apaisement de cette idée d'un conflit.
Il y a toujours ce contexte géopolitique, j'y reviens, qui nourrit aussi. C'est autant le monde arabe musulman a donné une image positive de lui. Par exemple, je pense à la révolution tunisienne,
au printemps arabe. Oui.
Autant d'autres régions du monde musulman nourrissent. Je pense à la Syrie, ces combats entre le régime et certaines factions djihadistes nourrissent on peut employer le mot haine parfois.
Oui, voilà. Non, c'est une vérité. Alors, il y a deux problèmes. Je peux souligner d'abord, on fait pas suffisamment d'attention à la grande partie du monde musulman. Là, il y a des choses qui se passent assez bien. Par exemple, l'Indonésie.
Oui, c'est ça. On assimile beaucoup en Europe le monde musulman au monde arabe.
Oui, voilà. Alors, l'Indonésie, c'est la population musulmane la plus importante dans le monde. Et c'est une démocratie qui marche assez bien. Et c'est peut-être en Asie du Sud-Est, c'est la démocratie qui marche le mieux, malgré quelques problèmes à un certain moment. Et on ignore cela, pour concentrer toutes nos analyses de l'islam en Syrie ou peut-être en Arabie Saoudite où il y a, au moment où il y a une peine de mort ou une peine qui est un peu difficile pour nous à avaler. Voilà. Ça c'est un problème. C'est un problème de la façon dans laquelle on focalise sur une région et pas pour une autre. Alors l'autre problème, c'est le jihad. Et c'est là où on concentre tous ces problèmes-là, parce que c'est vrai, ça existe. Et c'est le résultat d'une longue période, une longue histoire de clivage, d'oppression, de problèmes économiques, etc. Je peux pas revenir là-dessus, mais c'est un problème qui doit être analysé de ce point de vue-là. En même temps qu'on applique, et c'est très important, des mesures pour mieux sécuriser cette jeune population qui est susceptible d'être recrutée pour aller dans le jihad.
Merci John Bowen. Votre livre s'intitule « L'islam, un ennemi idéal ». Il donne à réfléchir. Merci. Il est publié chez Albin Michel. Merci d'être venu nous voir.
Et merci, un grand plaisir pour moi aussi.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Une émission que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Nous serons en compagnie d'un autre anthropologue, John Bowen. Il s'appelle Marc Abeles. Ses recherches portent principalement sur la politique et les institutions. Nous parlerons du rejet de la politique aujourd'hui, des élections avant la soirée électorale. 17h10, heure de Paris. Il vient d'écrire « Penser au-delà de l'État ». Un essai publié chez Belin, lui. Demain, dimanche donc, bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. We'll be right back.